La protection des innocents par le magistrat par Isaac Pennington, et en ce jour-là, je ferai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et avec les reptiles de la terre. Je briserai l'arc, l'épée et la guerre sur la terre, et je les ferai reposer en sécurité. Osée 2:18-1661. Je ne dis pas cela contre le fait, pour des magistrats ou des peuples, de se défendre contre des invasions étrangères, ou d'user de l'épée pour réprimer à l'intérieur de leurs frontières les violents et les malfaiteurs, car l'état actuel des choses peut l'exiger et l'exige effectivement. Et une grande bénédiction accompagnera l'épée lorsqu'elle est portée droitement à cette fin, et son usage sera honorable. Et tant qu'il y aura besoin d'une épée, le Seigneur ne permettra pas que ce gouvernement ou ses gouvernes. Isaac Pennington. La question si le magistrat, en justice et en équité, est tenu de défendre ceux qui, par la paix et l'amour que Dieu a opéré dans leurs esprits, et par cette loi de vie, de miséricorde, de bienveillance et de pardon que Dieu, de son propre doigt, a écrite dans leur cœur, ont été détournés du combat, et ne peuvent utiliser une arme, destructrice pour quelque créature que ce soit pour le défendre. La réponse, la magistrature, autorité gouvernementale a été instituée par Dieu pour la défense du peuple, non seulement de ceux qui en ont la capacité et peuvent combattre pour lui, mais aussi de ceux qui ne le peuvent pas, ou à qui l'amour et la loi de Dieu écrit dans leur cœur l'interdisent. Ainsi, les femmes, les enfants, les malades, les personnes âgées, et aussi les prêtres dans les nations qui ont la capacité de combattre, mais en sont exemptés par leur fonction, exemption qui n'est pas équivalente à celle que Dieu établit par la loi de son esprit dans le cœur, bénéficient de la loi et de la protection du magistrat sans combattre pour la défense de l'un ou de l'autre. Et n'est-il pas très juste et équitable que le combat entré par la chute prenne fin chez ce que Dieu retire de la chute, et que les magistrats à qui Dieu aide? Comment pourrait-il combattre des créatures, lui qui a de l'amour et de la bienveillance envers ces créatures, et dont les entrailles se remuent pour elles à cause de leurs égarements dans les convoitises, dans les crêles et dans les guerres? Le combat ne convient pas à un esprit évangélique, mais à l'esprit du monde et à ses enfants. Le combat dans l'Évangile est retourné vers l'intérieur contre les convoitises, et non vers l'extérieur contre les créatures. Il doit venir un temps où une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Lorsque la puissance de l'Évangile se répandra sur toute la terre, ainsi en sera-t-il sur toute la terre. Et là où la puissance de l'Esprit saisit et triomphe d'un cœur dès à présent, ainsi en sera-t-il dès à présent pour ce cœur-là. Cet état béni, qui sera produit en général au temps de Dieu, doit commencer chez des particuliers. Et ceci ne porte pas préjudice au monde, et ne serait pas regardé ainsi si seulement l'œil droit en l'homme était ouvert pour voir, mais ils sont des emblèmes de cet état béni que le Dieu de gloire a promis d'établir dans le monde au jour de l'Évangile. Et quoique par ce moyen, il puisse sembler y avoir un affaiblissement de la force du magistrat et de la défense de la nation dans laquelle Dieu fait se répandre, dans les cœurs de son peuple, la vertu et la puissance de sa vérité. Pourtant, en vérité, il n'en est rien, mais c'est un grand affermissement. Car si la justice est la force d'une nation, et la semence de Dieu le soutien de la terre, alors là où la justice est produite, et là où la semence de Dieu germe et prospère, cette nation devient forte. Et au lieu des armes et de la force de l'homme, la force éternelle s'étend sur cette nation, et cette sagesse s'élève dans les esprits des hommes, qui est meilleure que les armes de guerre. Et la sagesse qui vient d'en haut, pure et pacifique, est lancée à faire la paix et à ôter la cause des crêles et des guerres, et elle unit le cœur au Seigneur en l'attente. C'est pas la bien meilleure et plus sûre que l'état présent des choses dans le monde. Premièrement, préalable requis, avoir supprimé la cause des guerres et à sa place un esprit doux, pacifique et juste. Deuxièmement, avoir une génération pacifique et juste que le Seigneur a faite et conservée telle, respirant vers le Seigneur pour la paix, le bien et la prospérité de la nation et de ses magistrats, et pour qu'il étende son bras comme une défense autour d'eux. Troisièmement, après que Dieu a formé une génération juste dans cette nation. Cela ne serait-il pas bien meilleur pour les magistrats comme pour le peuple que l'état présent? Oh, que ce qui peut discerner et juger droitement soit réveillé en l'homme. Objection, mais c'est là un état utopique, ou un monde sur la lune. Est-il possible qu'un tel état existe jamais ici sur la terre? Réponse 1. Quand le principe de Dieu, qui est caché dans les cœurs des hommes, sur lequel la nature corrompue a cru, et que l'esprit de ténèbres en l'homme foule aux pieds, sera relevé et viendra à dominer, la justice, la paix et la bienveillance jailliront parmi les hommes aussi naturellement que maintenant les guerres, les crêles, les divisions, les rivalités, les aigreurs de cœur, etc. Pennington dit que l'Esprit de Dieu doit être aux commandes venir à dominer avant que les guerres puissent éventuellement cesser. Commentaire de l'éditeur du site. Ce texte témoigne de la façon dont cela pourrait arriver, mais comme il l'explique plus bas, il ne préconise pas que les nations cessent de se protéger elles-mêmes ou de protéger leurs citoyens avant que la puissance de Dieu ne se soit répandue sur le monde. 2. Il y a une promesse d'un tel état, quand le lion mangera de la paille comme le bœuf et se couchera avec l'agneau, quand la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer, et que rien ne fera de mal ni de ravage sur la montagne sainte de Dieu, mais les nations qui auront été pleines de guerre jetteront leurs armes, se soumettront à l'esprit de paix et de justice et n'apprendront plus la guerre, quand la sagesse des sages et la force des forts seront brisées en morceaux, et le petit enfant jouera sur le trou de l'aspi. Aussi sûrement que le Seigneur Dieu est vrai, cela doit arriver en son temps, et ne sera-ce pas heureux quand cela se produira, qui voudrait l'empêcher, qui lutterait pour maintenir les anciens cieux et l'ancienne terre, qui doivent être dissous avant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite puissent être formés et produits. 3. Cet état était autrefois en bonne voie, avant l'apostasie universelle de cette vérité et de cette puissance que Dieu avait semée sur la terre, lors du souffle et de l'envoi de son esprit parmi ses disciples, selon sa promesse. Précieux était cette semence, grande sa croissance, la femme, ou la véritable Église pleine de beauté et de gloire, et elle enfanta l'enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations. Mais il a plu au Seigneur d'ajourner ce jour jusqu'après la nuit de l'apostasie en enlevant l'enfant mâle au ciel et en faisant fuir la femme au désert, où elle est cachée depuis, aux yeux de tous sauf de l'œil intérieur de l'Israël intérieur, et le monde dans sa nature païenne n'a cessé de crier « Sainte Église, Sainte Église !» À celle qui est assise sur la bête et qui s'est enivrée du sang des martyrs de Jésus. Mais la tendre épouse, la femme de l'agneau, la mère de tous les agneaux, a été bannie de la terre, et une marâtre cruelle et sanguinaire a été établie sur tous ceux qui ont une conscience tendre depuis lors. Lamentable, lamentable a été l'état de la véritable Église et de tous les enfants de la vérité pendant toute cette sombre nuit de l'apostasie. Mais le Seigneur y met fin, et bien que cette fausse femme semble regagner du terrain, remettre ses pieds sur le cou des agneaux, et commence à penser qu'elle prévaudra et siégera comme dame et reine sur les consciences de l'héritage de Dieu à jamais, pourtant elle trouvera que fort est le Seigneur Dieu qui a commencé à la juger, et dans la mer qu'elle soulève elle coulera comme une pierre, et sa chute sera grande et rapide, car en un seul jour sa misère la surprendra et la dévorera. 4. Après cette longue nuit d'apostasie, le Seigneur a commencé à faire de nouveau quelques préparatifs en vue de cet état. Il a ouvert ses trésors, il a libéré la puissance de sa vérité, il a répandu son esprit pour sanctifier et rassembler un peuple à lui, il a ouvert le principe de vie dans les cœurs de beaucoup et dans une large mesure les y a attirés, et dans la mesure où ils sont renouvelés par cela et s'y trouvent, ils sont rendus paisibles, purs, doux, gentils, innocents, droits de cœur et d'une conscience délicate, tant envers Dieu qu'envers l'homme. Et bien que des multitudes de reproches aient été jetées sur eux, pourtant le Seigneur a bien voulu faire resplendir leur innocence et leur intégrité, les effaçant en grande partie, et en son temps, il fera paraître leur justice comme la lumière et leur jugement comme le plein midi. Et que reste-t-il pour poursuivre cette œuvre, sinon que le Seigneur fasse prospérer ce principe et souffle sur l'autre? À mesure que le Seigneur le fera, cela avancera. Et les nations rois, princes grands, à mesure que ce principe s'élèvera en eux et que la sagesse contraire, la politique terrestre qui ruine tout, sera abaissée, sentiront la bénédiction de Dieu en eux-mêmes et deviendront une bénédiction pour les autres. Oh, s'il y avait une oreille pour entendre! Car c'est la seule manière de guérir cette nation qui a été si cruellement déchirée, comme on le reconnaîtra quand une expérience lamentable le rendra manifeste. Mais l'homme, dans la prospérité, ne peut entendre, et cela oblige le Seigneur, en tournant sa main, à lui amener le jour de l'adversité, jour auquel, s'il avait su écouter au jour de sa prospérité, il aurait pu échapper, car Dieu n'afflige pas volontiers et ne contriste pas les enfants des hommes. Il y est contraint pour la gloire de son propre nom, pour la conservation et la défense de sa vérité et de son peuple, et pour l'avancement de son œuvre. Objection, mais si tous les hommes étaient de cet avis, et qu'aucun ne veuille combattre, supposons qu'une nation soit envahie, le pays ne serait-il pas nécessairement ruiné? Réponse 1. Chaque fois qu'une telle chose doit être produite dans le monde, elle doit avoir un commencement avant de pouvoir croître et être portée à sa perfection. Et où devrait-elle commencer, sinon chez quelques particuliers dans une nation, pour ensuite se répandre peu à peu, jusqu'à couvrir la nation, puis de nation en nation, jusqu'à ce que toute la terre soit levée née. C'est pourquoi quiconque désire voir cet état aimable se manifester en général, s'il veut favoriser son propre désir, doit le chérir dans le particulier en lui-même. Et oh! Que les hommes ne dépensent pas leurs forces et ne risquent pas de tout perdre à chérir des prétentions et des noms de christianisme, mais qu'ils prient enfin le Seigneur d'ouvrir en eux cet œil qui peut voir l'amabilité de la vérité, de la puissance et de la vertu du christianisme, afin qu'ils chérissent cette délicatesse de conscience dans laquelle la vérité croît et jaillit dans sa vertu et sa puissance. Et alors peut-être reconnaîtrait-il bientôt que le bonheur du monde dépend de la croissance de ce principe et de ce peuple, qui sont maintenant méprisés par le monde, et ne peuvent que l'être par l'esprit et la sagesse du monde, lequel gît dans la méchanceté, eux en ayant été retirés et témoignant contre lui l'esprit du monde à la place de Christ, et non la guerre. Commentaire de l'éditeur du site. Pennington parle de cœur transformé, entrant dans la vie et le principe de l'Évangile, puis se répandant ainsi par degrés, jusqu'à recouvrir la nation, puis de nation en nation, jusqu'à ce que toute la terre soit levée née, ce que la parole du Seigneur au-dedans m'a dit de voir arriver dans les prochaines années. » Ci-dessous, Pennington précise, « Mais pourtant il existe un meilleur état, dans lequel le Seigneur a déjà fait entrer certains, et que les nations doivent attendre et vers lequel elles doivent tendre. Le Seigneur a dit, par les prophètes, que la justice se répandra sur la terre, et l'Apocalypse prédit comment cela se produira. Pour que la justice se répande sur toute la terre, tous les pécheurs seront détruits. Mais le temps des grandes tribulations annoncées par l'Apocalypse donnera à certaines personnes la motivation de rechercher la grâce purificatrice du cœur et de l'âme qu'il a toujours offerte, mais que la chrétienté a transformée en une chose impie. » Edward Burroughs prophétise le même événement mondial, tout comme Stephen Crisp. « Si vous êtes un défenseur de la paix, laissez d'abord Dieu créer dans votre cœur la paix qui surpasse toute intelligence, et alors vous verrez comment promouvoir la vraie paix dans le monde. La paix commence à la maison, dans votre cœur. » George Fox fut arrêté, emprisonné, traîné devant des tribunaux et escorté par des hommes en armes à de nombreuses reprises tout au long du journal, mais il ne leur dit jamais un mot sur le fait de porter des armes comme étant mal. Les Quakers d'aujourd'hui ont transformé leur témoignage de paix, passant des appels personnels et soumis des premiers Quakers face aux politiques gouvernementales persécutrices, à une opposition organisée de groupes et à des protestations contre les politiques gouvernementales de guerre, et de leur refus pacifique dicté par la conscience de porter des armes, à une confrontation agressive avec ceux qui portent des armes. Ainsi, leurs idéaux originels ont été tordus pour devenir l'exact opposé de leurs origines. Oubliant les témoignages des premiers Quakers contre le mensonge, les maudes dispendieuses, l'avidité, l'immoralité sexuelle, les jurons, les faux prophètes, etc. pour lesquels ils furent fortement persécutés, les Quakers des temps ultérieurs préfèrent descendre dans la rue pour s'opposer aux forces armées de leur gouvernement, concluant manifestement que le seul mal de l'homme est de porter des armes, en contraste saisissant avec les avertissements et les définitions du mal dans la Bible. Et de telles torsions diaboliques se produisent toujours par petites étapes. Un individu est convaincu par le Christ, de sorte que sa conscience ne lui permet pas de porter des armes contre un autre être humain, tout comme il doit tendre l'autre joue, plutôt que de se venger quand quelqu'un le frappe. L'individu commence à dire aux autres qu'ils ne doivent pas non plus porter des armes, ne laissant pas l'enseignement au Christ concernant ce qui n'est pas interdit par l'Écriture. Nulle part la guerre n'est interdite dans l'Écriture, car la guerre est parfois nécessaire pour protéger les innocents. Le groupe fait du fait de ne pas porter d'armes une règle pour l'Église. L'Église commence ensuite à dire à ceux qui sont hors de l'Église que la guerre est mauvaise. L'Église commence à s'ingérer dans les affaires militaires, dans le cadre de sa déclaration contre la guerre. Comme on pouvait s'y attendre, Satan attaquerait la véritable Église avec une puissance redoutable pour la tromper au moyen d'une série de petites étapes, la faisant devenir un simple autre faubourg de Babylone. Mais comme le dit Isaac Pennington, les vases de Babylone font grand étalage, paraissent très saints, très célestes, très ailés pour Dieu et Christ. Voir soumission, pour plus de détails sur ce sujet de « Il n'appartient pas à une nation », entrant dans la vie et le principe de l'Évangile astérisque, il parle d'une nation entière, au cœur transformé un jour, espérons-le dans un avenir proche, de prendre soin à l'avance de la manière dont elle sera préservée. Mais l'Évangile enseignera à une nation si elle l'écoute, tout comme à une personne en particulier, à se confier au Seigneur et à l'attendre pour sa préservation. L'Israël d'autrefois ne tenait pas par sa force et sa sagesse, ni par des préparatifs contre ses ennemis, mais par le calme et la confiance, et en attendant du Seigneur la direction, Ésaïe 30:15, et ceux d'aujourd'hui, qui sont de vrais Israélites et ont réellement atteint le véritable état évangélique, ne suivraient-ils pas le Seigneur dans la vie et l'esprit pacifique de l'Évangile, à moins de voir d'avance par démonstration rationnelle, comment ils seront préservés par cela? Je ne dis pas cela contre le fait, pour des magistrats ou des peuples, de se défendre contre des invasions étrangères, ou d'user de l'épée pour réprimer à l'intérieur de leurs frontières les violents et les malfaiteurs, car l'état actuel des choses peut l'exiger et l'exige effectivement, et une grande bénédiction accompagnera l'épée lorsqu'elle est portée droitement à cette fin, et son usage sera honorable. Et tant qu'il y aura besoin d'une épée, le Seigneur ne permettra pas que ce gouvernement ou ses gouvernants manquent soit dépourvus d'instruments appropres. Oui, il vaut bien mieux connaître le Seigneur comme défenseur, l'attendre chaque jour, et voir le besoin de sa force, de sa sagesse et de sa préservation, que d'être si fort et si habile qu'on veuille en armes de guerre. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Il n'appartient pas à une nation, entrant dans la vie et le principe de l'Évangile, de prendre soin à l'avance de la manière dont elle sera préservée. Autrement dit, une nation ne doit pas présumer qu'elle doit déposer toutes les armes sans que le Seigneur ne la conduise. Observez la manière dont les gens citent Pennington, toujours hors contexte, prétendant qu'il prenait de déposer toutes les armes maintenant, avant qu'une nation soit entièrement convertie au véritable Évangile de Dieu. L'agenda d'une telle personne est une résistance orgueilleuse, plutôt qu'une soumission paisible, des œuvres de la chair, plutôt que la mort de leur chair, une action sociale qui les fait se sentir et paraître sains, plutôt que de devenir sains. Ainsi, leur société est devenue ce que Pennington décrit comme un simple autre faubourg de Babylone, avec la paix de Babylone sous une forme de sainteté. Comme le dit Pennington ci-dessus au point 1, il doit venir un temps où une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Lorsque la puissance de l'Évangile se répandra sur toute la terre, ainsi en sera-t-il sur toute la terre. Et là où la puissance de l'Esprit saisit et triomphe d'un cœur dès à présent, ainsi en sera-t-il dès à présent pour ce cœur-là. Cet état béni, qui sera produit en général au temps de Dieu, doit commencer chez des particuliers. Jusque-là, comme il le dit au point 2, je ne dis pas cela contre le fait, pour des magistrats ou des peuples, de se défendre contre des invasions étrangères, ou d'user de l'épée pour réprimer à l'intérieur de leurs frontières les violents et les malfaiteurs. Car l'état actuel des choses peut l'exiger et l'exige effectivement, et une grande bénédiction accompagnera l'épée lorsqu'elle est portée droitement à cette fin, et son usage sera honorable. Et tant qu'il y aura besoin d'une épée, le Seigneur ne permettra pas que ce gouvernement, ou ses goûts. 3. Si le Seigneur entreprenait la défense d'une nation par son esprit et sa puissance, qu'est-ce qui pourrait nuire à cette nation ? Quelle puissance humaine pourrait l'atteindre pour troubler sa paix ? Les Égyptiens sont des hommes et non Dieu, et leurs chevaux chairs et non esprit. Ésaïe 31:3. Que pouvait faire Sanchérib avec son armée contre un seul ange au temps de la loi ? Combien de ses soldats furent tués en une nuit ? Et quelle puissance pourra alors prévaloir contre une nation amenée dans l'esprit pacifique de l'Évangile et défendue par lui, par la puissance même du Dieu Tout-Puissant ? Dieu ne sera-t-il pas une défense aussi sûre sur le véritable Israël, dans la voie et la dispensation où il les conduit, qu'il l'a jamais été sur l'Israël figuratif, dans la voie et la dispensation où il les conduisait ? Ne préservera-t-il pas et ne défendra-t-il pas cette nation à qui il enseigne d'abord à cesser la guerre, afin qu'elle ne soit pas livrée en proie, pendant qu'il enseigne la même leçon aux autres nations ? Dieu promit à l'Israël d'autrefois que, lorsqu'il monterait 3 fois par an pour se présenter devant le Seigneur, selon son commandement, il garderait hors du cœur des nations jusqu'au simple désir de leur terre, à plus forte raison de l'envahir et de la leur prendre dans l'intervalle, quoique ces nations puissent sembler à l'affût et suffisamment avides d'une telle occasion, eux ayant été chassés du pays et s'étant vu le pays enlevé auparavant. Exode 34:24. Le Seigneur peut aussi maintenant garder hors du cœur des nations l'idée d'envahir ou de léser la nation qu'il tirera la première dans l'esprit pacifique. Ou s'il ne juge pas bon de le faire, il peut défendre ceux qui l'ont suivi hors de l'esprit, de la sagesse et de la force terrestre, par des voies que l'homme ne connaît pas. Et il n'est peut-être pas bon qu'ils les connaissent jusqu'à ce que le Seigneur les fasse paraître. L'Israël d'autrefois ne devait pas connaître la délivrance à l'avance, mais se confier au Seigneur. Sous l'Évangile, le Seigneur donne plus de foi qu'à l'Israël d'autrefois sous la loi, et peut donc justement exiger une plus grande confiance dans de plus grandes détresses. Et réveille-toi ô terre ! Contemple l'Israël du Seigneur, qu'il a engendré et fait naître sur la terre après la longue et sombre nuit de l'apostasie, et tu verras quel cœur le Seigneur leur a donné pour se confier en lui dans toutes les détresses et les épreuves qu'il lui plaît de leur faire traverser, et ce que le Seigneur fera pour eux lorsqu'ils seront amenés au bord de la fosse, et qu'il semblera impossible d'échapper à la ruine et à la destruction totale. L'œil que le Seigneur leur a donné voit le Seigneur et sa force, et le cœur qu'il a recréé en eux craint naturellement la puissance éternelle qui atteint à jamais le corps et l'âme. Mais quant aux multitudes de nations, elles ne sont que la goutte d'un seau et dans leur plus grande sagesse et leur plus grande force, elles ne sont que vanité, comme la petite poussière de la balance, comme rien devant lui, et moins que rien pour lui. Considérez ceci, ô vous grands hommes, ô vous hommes sages et profonds politiciens, tout ce que vous avez fait, ou pourrez jamais faire, pour renverser quoi que ce soit que Dieu ait résolu que vos pour vous. Ou à quoi aboutira votre œuvre ? C'est exactement comme la petite poussière de la balance. Cela n'entrave en rien de l'autre côté le poids de sa puissance, mais il mènera son œuvre à bien, accomplira ce qu'il a résolu en lui-même et promis à son peuple, et tous vos conseils, votre sagesse, votre force, vos espérances, vos résolutions, ainsi que vos avantages présents ou futurs contre lui et son œuvre, ne l'empêcheront pas plus que la petite poussière dans le plateau d'une balance que le vent emporte, et elle n'est plus. Soyez donc sages, au fil des hommes, craignez devant votre Créateur, attendez dans sa crainte son conseil, afin que vous ne soyez pas laissés par lui entreprendre quelque chose contre lui, de peur que, sans vous en apercevoir, vous ne tombiez devant lui. Oh ! Que chacun, dans la crainte, se souvienne de ce passage, « Voilà l'homme qui n'avait pas fait de Dieu sa force, mais qui s'était confié dans l'abondance, etc. » Oubliez le Seigneur au jour de la prospérité accroît grandement l'angoisse et la tristesse du cœur au jour de l'adversité. Ô vous qui détenez le pouvoir aujourd'hui, considérez combien vous seriez peu disposés à voir le Seigneur tourner sa main contre vous et vous abaisser de nouveau, Oh, ne le provoquez pas, car il en est capable, comme il a pu renverser ceux qui vous ont précédé. Il vaut bien mieux pour vous maintenant craindre le Seigneur et le prévenir, que de vous lamenter et de vous repentir ensuite. Ne rejetez pas l'amour et le conseil du trésor qui vous préserverait maintenant, comme l'ont fait ceux qui vous ont précédé. Il y a chez tous les hommes, en qui le principe de Dieu n'est pas entièrement tué à un désir de justice, désir que Dieu allumera de plus en plus dans les nations, avant que la justice et la paix ne se rencontrent et ne s'y établissent. Or, si grand a été l'embrasement de ce désir dans cette nation, et tel en est l'état, que rien ne peut satisfaire son cœur sinon la justice, c'est cela qu'elle désire au plus profond. C'est à cela que les gouvernants d'autrefois auraient pu, et que les gouvernants d'aujourd'hui peuvent en demandant conseil au principe de Dieu en eux-mêmes et en s'y attachant étroitement répondre pour la nation. Mais si les consultations ne se font pas avec le Seigneur, dans le principe de vie venu de lui, mais avec la sagesse et la politique qui sont de la... Donc la King James a tort. Malheureusement, Robert Barclay, écrivain Quake des débuts, qui avouait ne pas être parvenu à la perfection, choisit de défendre le droit Quake de refuser de porter des armes, sur la base de « Do violence to no man ». Cela devint ensuite le fondement sur lequel les Quakes ultérieurs dirent à tort aux autres que tous ceux qui portent des armes, y compris les armées, avaient tort. Pourtant, souvenez-vous que les soldats romains en Israël étaient les gardiens de la paix, la police. Ainsi Jean-Baptiste leur disait d'accomplir leur devoir, sans opprimer personne. Ils agissaient comme le magistrat, qui porte l'épée contre les malfaiteurs, au bénéfice de ceux qui sont voués au bien. Ils empêchent les comportements criminels. Il est clair qu'ils ne voyaient rien d'immoral à servir comme soldats. S'ils l'avaient pensé, il leur aurait dit sans ambiguïté de changer de métier. Ils n'avaient assurément aucune difficulté à s'adresser aux pharisiens, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Ô race de serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Matt 3:7. Jésus non plus n'adressa aucune critique à un centurion romain, un commandant de l'armée romaine à la tête de 100 soldats, qui demanda à Jésus de guérir l'un de ses chers serviteurs. Au contraire, Jésus dit à propos de ce centurion romain, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. » Luc 7:2-9. Remarquez que les générations ultérieures de Quakers se sont empressées de s'appuyer sur ce seul passage d'écriture mal traduit pour justifier leur mouvement pacifiste. Pourtant, ils ignorent commodément des milliers de passages avertissant contre la cupidité, la rage, la convoitise, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, le fait de marcher selon l'imagination de son propre cœur, la fureur, la jalousie, l'envie, les orgies, l'avidité, le langage profane, l'entêtement, la sorcellerie, etc., allant jusqu'à nier que Jésus-Christ soit l'unique source de salut. Les Quakers modernes ont redéfini tout le mal en le limitant à la guerre et à l'énergie nucléaire, certains y ajoutant les restrictions à l'avortement et l'abattage des arbres. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.